bien, merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour cette intervention. Une intervention à trois voix. Mathieu Decorde, qui est informaticien, développeur, c'est le développeur de la plateforme TXM, donc c'est un geek. Moi, je suis juste géographe, testeur bêta de la nouvelle version de TXM. Et puis, Emeline Combi, qui vient de prendre la parole, qui apparaît ici, puisqu'on va utiliser son corpus, notamment sur la dernière partie de la présentation. Alors, les SHS, les sciences humaines et sociales, sont en train de connaître un mouvement d'internationalisation. On utilise des outils de plus en plus développés, de plus en plus performants. Ceci dit, le texte, ça reste pour nous une source de prédilection. Le texte dans ses aspects subjectifs et objectifs. Pour mettre en valeur ce texte, on utilise des outils au sein d'équipes. De plus en plus, hein, cette recherche, elle est communautaire, elle vise à être objective, elle est accumulative. Voilà. Et ceci dit, quand on quitte le mot pour aller vers le nombre, en espérant gagner un peu en objectivité, mais on ne reste pas forcément dans le nombre. On a souvent envie de faire une navette entre le mot et le nombre. Et il me semble que cette plateforme TXM propose toute une série d'outils, à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui permettent aux chercheurs de faire cette navette. Donc Mathieu va vous présenter
moi je vais vous parler assez concrètement de TXM. Donc, TXM, c'est le logiciel que je développe. Je développe au sein de la CAR avec la personne qui se présente, qui est Bénédicte Passman, et Serge Eden, qui lui est pris dans un autre séminaire qui est juste en dessous. Donc en fait, TXM a été initié par un projet ANR, le projet ANR textométrie. Je ne vais pas m'attarder dessus, vous pourrez avoir plus d'enseignements en cherchant textométrie sur Google. Et d'ailleurs, il y aura le site. Voilà. Donc le site, c'est ça. L'idée principale de TXM, donc, c'est de faire un outil d'analyse textuelle. Donc le logiciel est open source, ce qui va permettre aux chercheurs de savoir qu'est-ce qu'ils manipulent, et surtout il va pouvoir s'accaparer entièrement le logiciel et travailler avec. Et surtout il va pouvoir partager avec les gens, il n'y a rien à payer parce que c'est un logiciel open source, il est gratuit, vous allez sur le web, vous le téléchargez, vous l'installez et vous jouez avec. Et donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc ça c'est TXM, ça se présente. Alors là c'est la version Linux qui se lance depuis le menu habituel. Et donc TXM, tout de suite on va trouver des corpus ici. Dans une installation par défaut de TXM, vous allez avoir deux corpus, qui est la quête du Graal, qui est un corpus qui a été créé qui appartient à la BFM, donc du laboratoire CAR, et un corpus discours. C'est un échantillon du corpus de Damon Maillard sur les discours de président. Et tout à l'heure, Yves il va vous faire une démonstration avec le corpus des mille. Et en fait, je m'en servirai moi aussi pour faire la démonstration, pour vous montrer rapidement les fonctionnalités de TXM. Avant tout, je vais vous montrer, donc en allant dans le menu Aide, ici vous allez pouvoir trouver quelques raccourcis vers le site de TXM. Donc vous allez trouver le site de TXM. Il est hébergé sur le net, donc sur la forge de logiciel qu'on appelle SourceForge. Donc vous allez sur Google, vous cherchez SourceForge plus TXM, et vous allez tomber dessus, et vous Bon, je vais continuer dans l'interface. Donc ici, on peut voir ici les corpus qui sont déjà chargés dans PXL. Donc le corpus RAL, le corpus discours, et le corpus RONE et SAUNE, SAUNE et RONE, DEMLIN et DEI. Dans cette zone ici, la grande zone ici, vous allez voir apparaître les résultats des différentes fonctions. Et en bas, vous allez voir les messages de la plateforme. Si jamais elle n'est pas contente, tout ça, vous aurez plein de messages. Et si jamais vous avez des problèmes, vous nous envoyez ça et puis ça va vous permettre de répondre. Je vais commencer tout de suite par utiliser ce corpus en fait. C'est corpus div, il me l'a donné la semaine dernière, je ne le connais pas du tout. Et donc on va dire que je ne connais pas le corpus et je vais le découvrir avec vous. Donc pour faire ça, la première chose à faire, on va faire appel à la fonction information qui va nous donner tout un tas d'aperçus de ce qu'il y a dans le corpus. J'ai déjà calculé, mais je vais recalculer. Donc là, TXM va faire appel à son moteur de recherche qui va aller récupérer toutes les informations sur le corpus. Et donc on y est là. Donc on peut voir ici, donc c'est un corpus qui a. C'est un petit corpus de 100 000 mots. Et sur les mots, on va rajouter des propriétés qui vont nous permettre de faire des requêtes plus fines et plus complexes. Et ici d'ailleurs on a un extrait ici même. Donc on a la propriété Word qui est en fait la surface du mot, c'est-à-dire les mots que vous voyez. Et sur ce corpus-là, on a été rajouté des étiquettes, c'est-à-dire sur chaque mot, on a rajouté une propriété, dont le lem et la morphosyntaxe, aussi connue sous le nom de post. Alors pour ceux qui ne savent pas, le lem c'est en gros l'entrée du dictionnaire du mot. Donc L' apostrophe, ça va donner le, du ça va donner de, etc. Un verbe conjugué va donner son infinitif, tout ça. Et la morphosyntaxe va donc vous donner la fonction, voire tout un tas d'infos. Donc on va savoir si un mot est un verbe, est un pronom, un déterminant et tout ça. Dans ce corpus, on a le corpus est constitué de textes. Et donc un texte, par défaut, il a un nom, mais dans ce corpus-là, il va rajouter ce qu'on appelle des métadonnées au texte qui vont nous permettre de classer les textes, de les regrouper ensemble et après de faire des comparaisons. Donc par exemple, là, on a la propriété année qui va nous permettre de regrouper tous les textes par année et puis après d'aller comparer. On a aussi les auteurs, on a des échelles et tout ça, c'est des propriétés que Yves a rajouté au corpus. Donc j'en ai pas parlé, mais en fait un corpus TXM, on a deux façons d'entrer un corpus dans TXM, c'est soit d'importer à partir de fichiers texte ou de divers formats, soit de charger, c'est-à-dire récupérer un corpus que quelqu'un a déjà fait et juste le lire dans TXM. Donc c'est ce que j'ai fait avec le corpus div. Donc il m'a donné son corpus, je l'ai juste chargé. Mais sinon, si vous êtes un petit peu intéressé, vous avez ici la liste des formats que TXM est capable de lire. Donc on a le format le plus simple possible, c'est donc un ensemble de fichiers texte, jusqu'à des formats beaucoup plus complexes, de XML, TUI, je ne sais pas si ça vous dit, ou alors des formats de logiciels d'analyse textuelle comme Analyse ou Hyperbase. Et donc voilà, on pourrait voir dans le manuel, on a la description de tous ces formats et de comment les rentrer dans TXM. Mais revenons à notre corpus ici, donc là on a vu un petit rapidement ce qu'il y avait dedans, donc on a vu il y a des mots, ça parle de projet, machin, tout ça. Ça c'est juste des extraits, c'est pas tous les mots. Et justement on va regarder un peu ce qu'il y a dans ce corpus. Un truc important que je n'ai pas dit, la méthode de TXM et de la textométrie en général, c'est de pouvoir toujours retourner au texte. Donc on va regarder tout de suite, voir si on a bien notre texte. Donc voici ce qu'on appelle l'édition textuelle. Donc c'est la texte, on retrouve en haut ici le titre du texte qui s'appelle 2003-01-19, donc c'est la date du texte. Et on va voir ici les métadonnées du texte qui ont été données, et là on tombe directement dans le texte, donc aménagement des berges, l'agglomération se réconcilie avec les fleurs, avec ses fleurs. Bon, on ne va pas tout lire, donc on va avoir un aperçu rapidement des mots qui sont employés dans TXM. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle un lexique. Donc, pour ça, en fait, on sélectionne le corpus. Et ensuite, en haut, ici, on a les outils disponibles pour analyser le corpus. Et le premier qu'on fait d'habitude, c'est d'afficher le lexique donc, des mots. On va voir tous les mots et leur fréquence dans le corpus, c'est-à-dire le nombre de fois où ils apparaissent. Donc, on tombe dessus, là, et on voit... rapidement donc les mots les plus utilisés, donc c'est ce qu'on appelle les mots outils de, le, la, les, des, et, du, a, tout ça. Et donc si on va descendre, on va arriver, on va pas très bien, on va arriver à lire ou pas.
Est-ce que ce serait possible de reculer la table pour essayer de faire
généralement, on n'est pas très intéressé par ça, en tout cas, pas le commun des mortels, les linguistes peut-être, eux ils vont être quand même intéressés. Et donc on va tout de suite descendre un petit peu pour voir les premiers mots qui ne sont pas outils. Donc on va voir ici les berges, ok, en Rhône, bon, c'est pas surprenant, en corpus c'est le Rhône-Saône. On va voir donc tout ça, et donc à partir d'ici on aura déjà un premier aperçu de ce qu'il y a dans le corpus. Ça va parler des berges, super. Bon, on en parle pas mal, on en parle 484 fois. Et puis, pour voir tout de suite la réalisation de ces mots berges, c'est-à-dire voir où ils sont dans le texte, on va faire un double clic sur berge. Et on va arriver dans ce qu'on appelle des concordances. Donc ici, au milieu, vous avez la colonne qu'on appelle pivot. Et autour, vous allez avoir le texte qui le précède et après le texte qui le suit. Donc voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir trier sur les colonnes ici et avoir une lecture plus rapide de ce qui joue avec les berges. Donc là, on a les ponctuations. Si on avance un petit peu, on va voir pas mal de choses. Donc on a quoi? Les berges de Saône, les berges du canal de Jonage, les berges du Rhône. Donc on les voit apparaître ici. Bon, alors on a un petit peu perdu. On a ce qu'on appelle des références qui nous permettent de savoir où est ce mot dans le corpus, donc à quel texte ça appartient, par exemple. Donc c'est ici, ce texte 2010, machin chose. Et si on veut encore voir plus autour du mot, on a refait un double clic. Là, ça va nous ouvrir l'édition que je vous ai montrée tout à l'heure. On va voir une mise en évidence ici du mot berge. Et aussi, autour, ici, vous voyez en plus clair les autres réalisations de berge dans la concordance. Si par exemple, je laisse la souris sur berge, vous voyez apparaître ici ce qu'on appelle, ce que j'appelle un tooltip ou un flyover. Et donc, j'appelle ça. Donc vous allez voir apparaître les propriétés Hercos et Ferlaine. C'est les propriétés pour ce mot, donc qui a un nom dont le lait est berge. Donc ici berge au pluriel et le lait est berge au singulier. On peut aussi, à partir de la concordance ou de l'index, on peut voir les autres, toutes les étiquettes du corpus. Donc là, on va demander à voir les lèvres, qui ne va pas changer énormément notre tableau, mais on va voir toujours apparaître les mots outils ici. On voit apparaître ici un arrobase card A, donc c'est le lemme pour les nombres. Et on va voir aussi pas trop loin les berges ici arrivées. Donc on en trouve plus que tout à l'heure parce que le lemme berge va regrouper les berges au singulier ou au pluriel, les berges avec un B majuscule, ou des R majuscules, donc c'est pareil, c'est fou. Et pareil, double clic, on retourne dans la concordance, cette fois on a toutes les berges, toutes les réalisations du lemme berge dans le corpus. Alors où est-ce que j'en suis là? Moi hier j'ai regardé un petit peu le corpus et puis j'ai vu dans les mots-outils, pas trop loin ici, ça parle de place. Je sais pas, de quelle place. Donc pareil, on va voir un petit peu les réalisations de place. Donc on a des places de stationnement, des places du giratoire et tout ça. Donc je suis un peu feignant, j'ai pas envie de me taper les 324 places du corpus. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une autre fonction de TXM qui s'appelle co-occurrence, qui va nous compter en quelque sorte tous les mots qui sont autour, à gauche et à droite, dans une certaine fenêtre. Et comme ça, on va avoir un résumé rapide de avec quel mot le place joue. Donc on va prendre notre concordance ici. Vous voyez ici les corpus et les résultats que j'ai calculés qui sont apparus.
Pas beaucoup.
Moi je vous montre les co-occurrences rapidement et vous me faites signe quand j'ai place. Donc voici les co-occurrences. Donc on prend notre concordance, on la sélectionne et on clique sur l'icône de la co-occurrence. Donc c'est ces deux boules là qui ressemblent au logo Mastercard. Et donc ici on va voir que autour de place, on a des mots qui jouent, qui sont triés par un indice ou un score. Donc c'est un score de, on va dire, d'attraction, on est plutôt surpris de les voir. Et on va voir donc autour de place, on va trouver la place nautique, les parkings, la place Bellecour, les places de stationnement, et la fosse aux ours. Donc j'ai l'impression que dans ce corpus, ils sont un petit peu obsédés par les places de parking. Peut-être Yves pourra nous confirmer. Là, ce que j'ai fait, en fait, je vous ai montré qu'une partie de TXM qui est en gros l'exploration du corpus à travers les mots, leurs propriétés. Je ne vous ai pas du tout parlé du moteur de recherche. Jusqu'ici, j'ai fait que cliquer. Mais ici, vous voyez en haut, il y a des trucs bizarres, ce qu'on appelle des requêtes SQL, qui vont nous permettre d'attraper des motifs compliqués dans TXM. Par exemple, je veux une place suivie d'un autre mot derrière. Et je vais voir donc ici dans mon pivot apparaître les places 2. Et ça marche aussi pour les index. Même chose, je veux qu'on me compte toutes les places quelque chose derrière. Donc ici, place nautique, place 2, place à droite, etc. C'est une des autres fonctions. Et on peut voir aussi la réalisation de tous les mots dans TXM. Et au fil du corpus. Donc on a vu rapidement tout à l'heure qu'on avait des textes dans TXM. Qui sont organisés en fait, qui ont un nom qui est leur date. Et ça a permis à TXM de trier les textes dans un ordre qui va être en fait la date de disparition du texte. Donc rapidement, je vais vous montrer une petite requête qui va être le lien avec ce que Yves va faire derrière. Donc ici, je vais comparer l'apparition des mots Rhône et Saône dans le corpus. On va voir apparaître quelque chose. Ici je vais choisir d'afficher dans mon graphique les années donc d'apparition des textes. Donc là TXM va compter tous les mots et va les afficher. Voilà, donc ici je crois que c'est du rouge. Oui, c'est du rouge, vert. Et en bleu, donc en haut vous avez la courbe du Rhône, donc on en parle pendant tout le long. Et en bleu, vous avez la courbe de la Saône, ici, donc au début, on n'en parle pas beaucoup, et vous avez ici un changement de l'orientation de la courbe, qui est dû en fait à l'apparition beaucoup plus nombreuse du mot Saône dans TXM, dans le corpus. À chaque petite marche, vous avez une apparition du mot. Donc apparemment, en l'an 2007, il y a le mot Saône qui est apparu, et là, je vais passer la parole à lui. Et peut-être qu'il y aura une explication à vous donner. Voilà, c'était juste un petit extrait de quelques fonctions de PXL. J'ai pas du tout parlé des fonctions de statistiques et de agglomérer par mon lettre.
Alors ce qui suit en 10 petites minutes, ça va être une simple présentation d'une étude de cas sur le corpus des Moulines, la reconquête des berges du Rhône et de la Saône dans l'agglomération lyonnaise. C'est un corpus d'articles de presse, donc il s'agit d'un corpus de 174 articles qui ont été publiés entre 2003 et 2010. Donc c'est une application, on va dire, en termes géographiques. Et je vous la présente pour montrer quelle relation il y a entre TXM et R, et dans quelle mesure on peut exporter des tables TXM et pouvoir les utiliser sur R ensuite. Donc au tout début, ça c'est le travail qu'a fait Emeline. Elle est allée en archives et bibliothèques, donc en l'occurrence à l'Institut d'études politiques de Lyon pour retourner toutes les pages. Et choisir les articles qui portaient sur des enjeux, on va dire, rhodaniens. Il a fallu... Oh, ça marche pas. Il a fallu numériser. Donc voici le dispositif, le trépied, le décor, l'appareil photo numérique pour clicher les articles. Ensuite, il y a cette phase d'auxérisation. Donc là, c'est le logiciel Omnipage qui a été utilisé pour convertir l'image du texte en fichier TXM, en fichier TXT, pardon, en fichier texte. Ça marche plutôt pas mal. On a un taux de succès de 98%. Ça implique quand même une relecture derrière pour enlever toutes les coquilles. Ce que Emeline a fait, d'où ce sourire. Hein. Ensuite, on a choisi une des modalités d'import que Mathieu a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire l'import en TXT plus CSV. C'est-à-dire qu'on a mis, il y a un fichier TXT par article. Pour respecter la chronologie, on a choisi une stratégie pour le nommer tout simple. On met la date, donc 2010, et puis le mois. Et puis le jour, et si jamais le même jour il y a deux articles, on met A et B, et comme ça on retrouve le premier article sera toujours considéré comme le plus ancien. Donc dans un même dossier on met tous les TXT, et les métadonnées se trouvent dans une table Excel, une table CSV. Alors dans le mode d'emploi qui est accessible sur le site, on donne les petits critères pour un peu que ça marche bien, en particulier la première colonne du fichier CSV, c'est la colonne identifiant, et on doit avoir exactement le même nom pour le fichier et sa détermination dans la colonne. Et ensuite, toutes les métadonnées, toutes les variables à droite. Le corpus, on dirait que ça se passe bien, il est chargé sans problème dans la plateforme TXM. Une des premières choses qu'on a envie de faire quand on est géographe, c'est de partitionner ce corpus. Souvent, on adopte une approche contrastive. On va chercher qu'est-ce qui différencie certaines parties du corpus. Donc, bien souvent, on va chercher à opposer des auteurs différents, des acteurs différents. Ou alors, on va chercher à opposer des périodes différentes. Ou alors, on peut aussi être intéressé par l'opposition entre des espaces différents. Donc ça passe souvent par une partition. Donc ici, on a découpé le corpus en fonction des années. Voilà. Entre 2003 et 2010, donc ça se fait tout simplement par un clic droit sur le nom du corpus. Et on choisit partition, on lui dit qu'on veut partitionner le corpus en fonction de la variable année. Et voilà. Et il travaille tout seul et ça va très vite. Alors, simplement, on a tous les mots qui apparaissent en colonne et leur fréquence pour chaque texte. Ça peut être un peu lourd pour l'analyse, donc il faut adopter une stratégie pour simplifier un petit peu le lexique. Donc on peut choisir un seuil de fréquence, on peut aussi choisir les mots les plus spécifiques. Donc ici, c'est ce qui a été fait. On va calculer les spécificités pour chaque mot et pour chaque partie. Là encore, c'est toujours la même méthode. Et clic droit, on choisit l'outil spécificité et ce tableau apparaît. On peut trier les mots les plus spécifiques sur chaque partie, donc ici sur chaque année. Et on peut sélectionner les formes qui apparaissent comme étant les plus surreprésentées. Donc ici, on a choisi de garder les formes dont le score est supérieur à 4. On garde ces formes supérieures à 4 et on fait une petite requête au moyen d'un index. Tu l'as montré ça ?
Sur les corpus, mais tu peux faire la même chose sur les partitions. Donc sur chaque partie de la partition, il y a un index qui va être calculé.
Voilà. Donc on fait une petite requête, on choisit les mots les plus spécifiques, et du coup, on a gardé juste les mots qui nous intéressent, on a un petit peu simplifié le lexique, et à partir de là, on va calculer une table lexicale, c'est-à-dire une table qui va croiser les mots ou les lemmes en ligne et les parties en colonne. Alors, c'est cette table qui va servir souvent pour toutes les analyses suivantes. Les calculs statistiques, les productions graphiques procèdent directement de cette table. TXL, pour faire ces calculs statistiques et les productions graphiques, utilise R. Alors, on peut l'utiliser au sein de TXL sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, c'est-à-dire juste en pressant les boutons. On peut aussi en avoir un usage un petit peu mieux maîtrisé. Dans les dernières versions de TXL, on peut envoyer la table lexicale vers R. C'est-à-dire sur la table lexicale, il y a un petit une petite icône R et là, il y a une console qui s'ouvre et on peut utiliser la ligne de commande. Troisième option, on peut aussi exporter la table lexicale. Donc, je crois que c'est une petite icône en haut à gauche, il est marqué export, on exporte. On donne un nom de fichier et on se retrouve avec un fichier TXT qui peut être très facilement chargé dans R à l'extérieur. C'est ce qui a été fait ici. Et du coup, on peut utiliser toute la richesse des packages de R pour travailler sur la table de contingence. Donc ici, j'ai utilisé le package d'analyse multivariée qui s'appelle ADE4, qui est produit par les collègues écologues de l'Université Lyon 1. C'est juste à côté. Alors, c'est une AFC, une analyse factorielle des correspondances. On retrouve nos parties, on retrouve nos années, de 2003 à 2010, et on voit qu'il y a une structuration qui apparaît assez bien. Sur l'axe F1, on a le tout début du projet de reconquête des berges sur le Rhône en 2003. Et donc là, c'est vraiment la phase de concertation, d'information, diffusion du projet, exposition pour présenter les futurs travaux. Et à l'opposé, on a vraiment la mise en œuvre, le chantier et puis bientôt les pratiques. Sur l'axe F2, pour faire simple, on a les différents projets qui s'échelonnent. Du côté négatif, le chantier sur les berges du Rhône, et puis petit à petit, le projet Confluence et le projet en ce moment de reconquête des berges de la Saône du côté positif. Pour interpréter cette carte factorielle sur laquelle a été projetée les colonnes, les parties, les années. On peut utiliser les différents mots. Donc sur l'axe F1, tout à droite, on retrouve toute l'importance de la concertation, de l'exposition sur la péniche, exposition, péniche ici, et de l'autre côté, plutôt les problèmes qui apparaissent liés au chantier et aux pratiques, des problèmes tels que la dépollution sur le site Confluence, et puis les pratiques avec le rôle important de la fête, la danse ici, et des problèmes. Alors, tu parlais du parking, en fait, il faut savoir que les Lyonnais étaient très attachés à l'ancien usage des berges, c'est-à-dire poser la voiture le matin et la récupérer le soir. Donc, il y a eu toute une stratégie de la danse, de la fête, des guinguettes, pour faire en sorte que les Lyonnais refassent connaissance avec les berges et acceptent de virer les voitures. Toujours avec le logiciel PEP, on peut avoir une petite activité de clustering hiérarchique. Donc ici, c'est une classification, c'est une CH, une classification ascendante hiérarchique. Il y a 8 classes qui ressortent. Et j'ai choisi de me concentrer sur cette classe-là, qui donne une bonne idée des mots qui structurent la toute première phase du projet de reconquête des berges. C'est-à-dire, on retrouve cette importance de diffuser auprès des Lyonnais le futur projet avec l'exposition sur la péniche, où on a les premières maquettes, la diffusion des futurs paysages, tout le gros travail de concertation. Il y a des problèmes qui apparaissent, en particulier on se rend compte que les futurs travaux sont très minéraux, qu'on a laissé relativement peu de place à la végétation. Donc, il va y avoir une concertation entre les usagers et les architectes paysagistes pour redonner un petit peu de place au vert. Alors, ce qui est intéressant avec le package AVE4 par exemple, c'est qu'une fois qu'on a distinguer et repérer ces 8 classes, on peut maintenant les projeter sur la carte factorielle qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Et la classe sur laquelle on vient de faire un petit zoom, c'est la classe 2. Elle apparaît ici, c'est-à-dire sur le côté positif de l'axe F1, centré sur l'année 2003-2004. Voilà. Je crois que j'ai écoulé largement mon temps. Merci beaucoup.
Même si on est très en retard, on va peut-être faire des questions tout de suite, notamment s'il y a des détails qui vous ont semblé un petit peu rapides sur la plateforme. Questions ?
Bonjour. C'est un peu beaucoup, mais vous avez dit qu'il y a calculé les concurrences. C'est quoi l'échelle pour dire qu'ils sont effectivement utilisés dans...
En fait, on appelle ça des empans. C'est-à-dire, il y a deux façons de calculer les empans, c'est soit par mot, donc 15 mots à gauche, 10 à droite, ou alors en structure. Donc on va dire, soit ils sont dans la même phrase, soit ils sont dans la même phrase et dans une phrase à côté. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc quand je viens de la concordance, j'utilise la taille du contexte de la concordance pour calculer la cohérence. Donc là, c'était 15 mois à gauche.
J'ai une petite question pour Yves, juste pour voir si j'ai bien compris. Quand tu as montré les analyses factorielles et les mots qui font des clusters sur la graphique, donc ce qui détermine le cluster, c'est plutôt la date de texte, c'est un cluster. On forme la cluster parce que ces mots-là apparaissent plutôt dans les mots de texte. C'est quoi le... J'ai un peu de mal à projeter cette graphique dans la réalité du corpus.
En fait, là, c'est basé sur la distance du guide. Donc, ce n'est pas forcément structuré sur les années. Simplement, il se trouve que cette approche diachronique, elle donne une belle interprétation. Okay. Non, ça aurait pu y avoir, d'autres, d'autres éléments discriminants. Ça aurait pu être peut-être les journalistes ou enfin, les différents. En fait, les différents projets se cachent aussi derrière, derrière cette, cette périodisation. Parce que 2003, c'est le début de la concertation sur le Rhône. 2005, c'est le début des travaux, c'est le chantier. 2007, c'est à la fois l'inauguration des berges du Rhône et on lance le projet sur, sur la Saône.
Ceci étant, ta matrice de données, que se soumet à la classification, c'est les mots avec, par rapport aux années.
Oui.
Donc finalement, la distance se fait pour des mots qui apparaissent, deux mots sont d'autant plus, se ressemblent d'autant plus qu'ils apparaissent dans les mêmes années, avec le même genre de fréquence, la même ordre de grandeur. Dans le même profil, on va dire, sur les années. Celui qui a une grande bosse au début, une petite bosse par là, et va ressembler à celui qui a une grande bosse au début, une petite bosse par là, même si c'est pas la même chose. Donc ça peut être moins lié, comme tu dis, moins lié aux années, si par exemple c'était un projet qui apparaît, qui est récurrent entre 2003, 2005, 2007, et donc il y a un truc commun sur ces trois années, ça pourra rapprocher des mots, donc ce n'est pas forcément lié parce qu'ils étaient sur la même année, mais parce que ça apparaît que c'est dans un projet qui se trouvait caractérisé par les mêmes années. C'est un peu ça.
Un nombre limite de textes, parce que moi je travaille sur Isola. Si je veux charger tous les romans de Zola dans Excel, est-ce que ça marche? J'ai un fichier de correspondance qui fait 4660 lettres. Est-ce que je peux faire 4600 fichiers TXT?
Bonne question.
Pour constituer le corpus.
Ça, c'est en théorie, c'est possible, il n'y a pas de problème. En pratique, TXL a des. Gère bien une certaine géométrie de corpus et donc on peut arriver à s'en sortir. On a fait des progrès là-dessus récemment et c'est à voir, mais ça devrait passer.
C'est-à-dire que si je m'en rends compte une fois que j'ai tout autorisé,
non, mais après tu peux faire du texte, mais tu as, en fait, on a vu, tu as vu, il y a différents formats et on peut par exemple regrouper directement des textes ensemble. Ou alors, ils les mettent tous dans un seul fichier et tout était différent.
Des packages de lettres par année, par exemple, pour en faire moins.
Il y a plein de façons de faire. La forme TXT plus CSV, dans la version 0.5 de TXL, avait une limite qui faisait énormément ralentir TXL. Et il faut voir.
Parce que ça, cette question, moi, m'intéresse beaucoup, vu que je n'ai pas compris encore, enfin je ne sais pas, je ne peux pas dire. C'est-à-dire que sur un corpus de 10 millions de mots, ça rentre. Et quand on essaye 50, ça bloque. C'est-à-dire quand on a un gros paquet de textes, à un moment donné, il ne donne pas de message d'erreur, et puis il plante. Alors c'est où la limite en fait?
On a plusieurs limites. On a un moteur de recherche qui est en théorie capable de gérer des millions, voire des milliards de mots. Et après, derrière, on a toute l'ingénierie de TXL, et c'est là, en ce moment, où sont les limites. Donc il y a une limite, par exemple, sur le nombre de textes. On sait qu'il y a des moments où TXL va ralentir énormément si on lui donne beaucoup de textes, et il va être très long à charger. Et en fait, c'est des voies sur lesquelles on va avancer. TXL est encore assez jeune et nous on a testé nos corpus sur des textes qui sont faits plutôt gros mais plutôt peu nombreux. Donc on avait des corpus de 100 textes et des trucs comme ça et on voit apparaître de plus en plus des projets avec beaucoup de petits textes. Par exemple, on a aussi les articles de journaux qui sont très petits mais très nombreux. Et surtout maintenant avec le web, on peut faire assez rapidement des corpus assez gros de plusieurs milliers de textes, comme par exemple avec Factiva ou Calibre, ou comme ça.
Parce qu'en fait, pour le moment, ce qui est un peu, enfin, ce que vous pouvez faire, c'est faire quand même quelques tests pour savoir retrouver la limite et dire, bon, bah, par exemple, dans la version 6 actuelle, cherchez pas à mettre plus de temps. Parce que dans la mesure où sur CBB, il n'y a pas de limite, enfin je veux dire, il y a 500 millions de mots, on peut y aller franco de port. Sur TXM, la limite est beaucoup plus faible, actuellement. Hein. Donc j'ai des collègues qui disent, oh oui, on va te faire ça, c'est un petit joujou. Bon, moi je m'en sers parce que j'ai des corpus qui font pas plus de 10 millions de mots, mais je ne sais pas où est la limite. Donc si la limite était précisée en disant que ce sont les provisoires, c'est-à-dire dans 6 mois, attendez un peu, vous aurez 3 fois plus, et puis donc à la limite, à la fin, on aura autant que dans CBB, je suppose que c'est ça l'objectif.
L'objectif, c'est ça.
Bon. Donc à ce moment-là, prévoir, enfin prévenir un peu les gens pour éviter les exceptions idiotes.
Alors après, il y a aussi un truc, c'est que la textométrie, il y a pas mal de chercheurs en textométrie qui, à partir d'un certain nombre de millions de mots, n'arrivent plus à savoir combien, qu'est-ce qu'ils ont dans leur corpus. Donc, ça
peut être le contraire. Ça peut être le contraire. C'est-à-dire qu'on peut estimer qu'en dessous de 50 millions de mots, on ne fait rien de propre.
Voilà. Alors, donc, c'est quand on parle dans les grosses stats et tout ça.
Et je pense que ce serait quand même bien que bon, TXM puisse aussi aller jusqu'aux limites que c'est le moteur derrière de CDB. Ça serait quand même l'idéal. Éviter d'être obligé de passer par CDB pour faire tout ce que TXM ne peut pas faire. Hein? Ouais.
Donc voilà, le projet open source et ceux qui veulent nous aider à passer cette barrière, vous pouvez venir. Vous pouvez participer de différentes façons. Donc, comme Alain Guiraud, vous pouvez soit être bêta-testeur, c'est-à-dire nous on diffuse des versions bêta de TXM, donc celle que je vous montrais, que je viens de montrer, c'est une bêta. Et puis vous le testez, vous cassez les dents dessus, vous dites là ça va pas, ça marche pas. Ou alors vous pouvez aussi nous aider à faire la documentation de TXM. Par exemple, la fonction concurrence, c'est pas assez clair. Vous nous envoyez quelques lignes, tout ça. Et alors le summum du summum, c'est moi je sais un petit peu coder, je vais vous aider à faire ça. Par exemple, je suis vachement doué en R, comme les gars de tout à l'heure. Et je vais vous aider à faire un nouveau module. Faire une nouvelle statistique, intégrer un DE4, tout un tas de choses comme ça.
On va peut-être arrêter le débat là. Fin d'espoir. S'il y a des vocations, Mathieu les prendra bien en compte. Et puis on pourra continuer sur TXM cet après-midi, puisque Mathieu est là. S'il y a des interrogations, ce sera le moment de les poser.